Radio Campus Orléans 88.3 FM. Radio Campus Orléans 88.3 FM. Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Esperanto, estas la lingvo por ni, por ni. Esperanto, estas la lingvo por ni.
Esperanto, qu'est-ce que ce mot évoque pour vous ?
Déjà, toute ma jeunesse, parce que mon grand-père était espérantiste, et donc j'ai appris l'espéranto quand j'avais 3-4 ans. Et on va dire que c'était comme un peu une langue maternelle et puis une nouvelle découverte.
C'est une langue et c'est un mélange de plusieurs langues et c'est une possibilité pour parler une langue pour tout le monde.
Bonjour, je n'ai aucune idée. Espéranto, espérer, une histoire d'amour.
C'est un concept d'entente entre les peuples avant tout. Et moi, au-delà du fait que c'est vrai que c'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue, on se dit j'ai envie d'aller dans un pays pour apprendre la langue du pays. C'est vrai que l'idée de pouvoir communiquer avec qui que ce soit, je trouve que c'est un projet fantastique et que c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'y mette tous si on veut que ça marche vraiment.
Espéranto, c'est le premier mot du nom de notre association, Espéranto Développement 45. Dans mon dictionnaire Petit Larousse, au mot « espéranto », on trouve la définition « langue auxiliaire internationale créée en 1887 par Zamenhof à partir de racines appartenant essentiellement aux langues romanes ».
Langue, ça veut dire qu'on peut parler et écrire, comme en français, en anglais, en russe ou en swahili. Auxiliaire, c'est le contraire de principal. C'est fait pour nous aider en cas de difficulté, lorsque la langue principale ne suffit pas. International, c'est parce que les différentes nations parlent des langues différentes. Pour arriver à communiquer entre nations différentes, il faut une langue commune, une langue auxiliaire internationale.
Et Zamenhof ? Qui était Zamenhof ?
C'était un médecin du 19e siècle, d'Europe de l'Est. Il est né, a vécu et est mort dans ce qui est actuellement la Pologne, mais qui à l'époque était en Russie. Il est né à Bialystok et écrivait en 1895.
À Bialystok, la population se compose de quatre éléments différents. Russe, polonais, allemand et juif. Chacun parle sa langue à part et entretient des rapports hostiles avec les autres. On m'éleva en idéaliste. On m'enseigna que tous les hommes sont frères. Et cependant, dans la rue, dans les maisons, à chaque pas, tout me donnait le sentiment que l'humanité n'existe pas. Il n'existait que des Russes, des Polonais, des Allemands et des Juifs.
À Bialystok, quatre langues différentes, avec des alphabets différents, des mots différents et des règles compliquées et difficiles à apprendre. Il voulait, il espérait, une langue commune pour que tous les humains d'origine différente puissent se comprendre. Une langue simple, facile, précise.
Esperanto, estas la lingvo por ni, por ni. Esperanto, estas la lingvo por ni.
Esperanto, c'est « celui qui espère ». C'est le pseudonyme par lequel il a signé son livre pour montrer son espérance dans une langue pour que les humains puissent facilement se comprendre.
Esperanto, c'est un mot constitué de trois parties. Espère, au début, c'est facile pour les francophones. C'est comme espérer, espérant, espérance. Ant, au milieu, comme en français, le participe présent. O, à la fin, c'est un nom, c'est un substantif. Tous les noms se terminent en O. Et donc, Esperanto, c'est un nom qui signifie celui qui est espérant, celui qui est en train d'espérer, celui qui espère une communication possible entre tous les humains.
Et lingvo ?
C'est forcément un nom, car ça se termine en O.
Le début, lingv, ressemble à lingual, linguistique, linguiste. C'est la langue, le langage, que l'on peut parler ou écrire. C'est comme lingua, linguaggio en italien, comme lingua et linguare en espagnol. Donc, lingvo, c'est la langue. Le dictionnaire Larousse disait que cette langue est fondée essentiellement sur les langues romanes. Bon, c'est un peu court, il n'y a pas que les langues romanes.
C'est vrai que pour dire la lune, c'est luno, mais pour dire le soleil, c'est suno, comme sun en anglais ou sonne en allemand. Il y a donc des racines germaniques. Et si le chat est kato, le chien est hundo, comme hund en allemand. Et il y a aussi des racines slaves ou autres.
Esperanto, estas la lingvo por ni, por ni. Esperanto, estas la lingvo por ni.
ça signifie « estas la lingvo porni » ?«
Estas », c'est le verbe être conjugué au présent. Et « porni », ça veut dire « pour nous ».« Esperanto, estas la lingvo porni » signifie « l'espéranto, c'est la langue pour nous ». Pour en savoir plus, cherchez sur internet sur esperanto-france.org ou bien écoutez les capsules suivantes. Gis revido, gis reaudo.
Welcome to Radio Campus.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Bonjour à tous pour cette nouvelle chronique à vos clics. Nous voici donc tous confinés dans nos chaumières, claquemurés entre quatre murs. Heureusement, nous avons des yeux et des oreilles qui nous permettent de s'affranchir des limites de notre espace de confinement, pour le déborder et entrer dans le monde de l'imagination, du rêve et du plaisir. Ce magnifique outil de communication, que nous activons par une succession de clics, nous ouvre des horizons toujours vastes. Ainsi, nous pouvons accéder gratuitement à des ressources culturelles que nous offrent les plateformes de streaming. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître, mais pour ceux qui n'en ont pas connaissance, la chaîne Arte a mis en place une plateforme exceptionnelle que je vous recommande. Dans cette chronique, je vous propose donc de partager mes coups de cœur concernant aussi bien des documentaires, séries et films qui sont disponibles gratuitement ou en vidéo à la demande, acronyme VOD payante. Il vous suffit de taper Arte TV et vous arriverez sur le site, puis de cliquer sur la ligne titre Arte chaîne téléculturelle franco-allemande-TV direct pour parvenir à la page de garde. Sur cette page de garde, en haut sur la droite, près du petit sigle Arte orangé, dans un carré avec deux tirets horizontaux, vous cliquez à nouveau et vous aurez le menu déroulant vous permettant d'accéder aux différentes catégories de contenus proposés par la chaîne. Attention, les films et séries proposés ne sont accessibles gratuitement qu'un temps. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer si ce dont je vais vous parler disparaît. Néanmoins, les programmes qui sont présentés gratuitement le sont souvent ensuite en VOD payante, comme ce fut le cas de la fantastique série anglaise Free Girl, écrite par la scénariste Nicole Taylor et réalisée par Philippa Lothorff, qui part d'un fait divers véridique d'abus sexuels qui se sont déroulés à Rochdale, près de Manchester. Mais il y a tant de choses que vous pourrez vous rattraper à vos clics. Nous allons commencer aujourd'hui par un film intitulé The Intruder, le visiteur nocturne, de Roger Corman de 1962. Il est visible actuellement gratuitement. Roger Corman est un cinéaste et un producteur américain né en 1926 à Détroit. Sa production fut prolifique de westerns, de films, de science-fiction, de gangsters à petit budget. Il a mis le pied à l'étrier de réalisateurs maintenant célèbres comme Martin Scorsese, Francis Coppola, Joe Dante et d'acteurs qui firent leurs premières armes dans ses films, tels Jack Nicholson, Charles Bronson et William Shatner qui fut le capitaine Kirk dans la saga Star Trek et qui est l'auteur principal de ce film, The Intruder. Ce film, The Intruder, est lui aussi un film à petit budget qui a été tourné en décor naturel. Il nous conduit dans une petite ville américaine du Sud dans les années 1950. Elle est nommée dans le film Caxton avec ses grandes voitures américaines qui ondulent en tournant, suspendues par des amortisseurs trop souples. C'est son film préféré à l'auteur, mais il ne rencontrera pas le succès attendu. Le film nous décrit la période de la ségrégation où une loi autorise un quota d'élèves noirs à intégrer un lycée fréquenté par les blancs. Un personnage, Adam Kramer, en costume blanc, impeccable, arrive en ville. Le film commence sur le paysage de la campagne du Sud qui défile dans le cadre de la fenêtre du wagon. Puis, nous traversons la ville en bus jusqu'à l'hôtel. Dès les premières minutes, tous les personnages importants apparaissent. La fille du directeur d'école est là, le directeur d'école qui compte appliquer la loi, et son voisin de chambre, Sam, commercial, bon vivant et les pieds sur terre. Adam Kramer commence alors à construire sa machinerie. Il manipule un homme riche et influent qu'il convainc de l'aider, puis il séduit Ella. Il appuie et excite les sentiments racistes jusqu'au mensonge. Le film, comme dans les films américains, stigmatise le bien et le mal. Les deux champs de l'action des personnages. Puis il déroule une manipulation bien huilée, presque transparente, qui conduit à une tension extrême que je ne vous dévoilerai pas ici. C'est presque un manuel pour manipulateur, tant toutes les phases de la construction de cette machination au profit de la ségrégation sont faciles à lire et à ressentir. Plus il avance dans le déroulé de son action, plus il amplifie le mensonge qui le conduit à se faire peur,
face à une foule dont il a attisé la haine, tout en provoquant une forte excitation chez lui, liée à la sensation d'avoir un pouvoir sur la population qu'il a soulevée. Mais sa méthode sera dévoilée au grand jour. Le dialogue est tranchant et l'action est limpide pour le spectateur. La psychologie du personnage d'Alain Grammer est simple. Elle y décrit un personnage fragile et malsain. C'est sûr, c'est le mauvais, alors qu'il est beau comme un dieu, qu'il est un gendre idéal, bien élevé et poli. Dès le début du film, nous aurons un signe avant-coureur contraire. Il charge son revolver et joue à tirer derrière la vitrine sur des passants qui sont projetés idéalement comme des noirs. Son contraire, le bon, c'est Sam. Pourtant, il semble un peu nymphomane, un peu grossier. Nous retrouverons cette tension psychologique dans un film célèbre de 1957 de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, que vous avez certainement vu. Il s'agit de 12 jurés qui doivent juger un meurtrier. Leur verdict doit être établi à l'unanimité. L'un d'entre eux, seul contre tous, doute et se refuse trop rapidement à le condamner. Le film montre toutes les étapes du retournement des jurés, exactement comme ce film « The Intruder » montre toutes les étapes de la manipulation d'Adam Kramer et son passage du personnage bien intégré socialement à un être malfaisant. En 2018, le film « Green Box » de Peter Farrelly traite de cette période de la ségrégation. Il s'agit d'un pianiste noir, célèbre, qui décide de faire une tournée dans le Sud pour affronter le racisme de cette société. Le Green Book est un guide pour indiquer les adresses pour les voyageurs, bars, hôtels accessibles aux Noirs. Il part avec un chauffeur blanc, immigré italien, mal dégrossi, avec des relents racistes mais généreux. Point de grande démonstration dans ce film pour critiquer la ségrégation. Sa dénonciation apparaît plus au cours de l'évolution de la relation entre les deux hommes que par la dénonciation du racisme de cette société que le pianiste subit. Ce film traite de la complexité de cette situation au regard d'une relation individuelle entre les deux principaux personnages. À son retour à New York, sur son trône, le pianiste semble bien seul dans cette grande ville qui a construit sa renommée, comme si le fait d'être noir, riche et reconnu n'est pas si évident dans cette société qui pourtant admire ses talents. Il se réfugie le soir de Noël dans la famille de son chauffeur. Et cela résume parfaitement le chemin positif de la compréhension de la situation de chacun par l'autre. L'un riche et noir, l'autre blanc et pauvre. Nous pourrions, en forçant le trait, dresser une comparaison entre ces deux films que 60 ans séparent. The Intruder part de l'impact de la position de l'individu sur une société ségrégationniste pour évaluer la relation psychologique entre Adam Kramer et Sam, entre le bon et le mauvais, le bien et le mal. Green Book part de la relation entre le pianiste et le chauffeur pour analyser les conséquences sociales de la ségrégation sur la psychologie des individus. La transparence des positionnements entre les personnages du film The Intruder vient du fait que l'individu est bon, quelles que soient ses apparences, s'il répond au comportement du bien social. Et inversement. Bien entendu, le bien social, nous le savons, est politique. D'où la transparence aussi des engagements des personnages. Alors que dans le film Green Box, la ségrégation affecte autant la société que l'individu et les réunit au sein d'une même complexité. La personne doit autant comprendre l'effet que la ségrégation a sur ce qu'elle est que de comprendre comment elle agit sur la société. Dès lors, la complexité de cette situation intriquée nécessite des efforts de discernement, non des jugements trop rapides. Ce rapport blanc-noir, du couple bien-mal, de ces films américains des années 1960, semble bien émoussé aujourd'hui, où tout s'entremêle. C'est le cas de bien des films, pour lesquels rien n'est simple et où les personnages et les situations deviennent complexes. Dans le film « Le Caire confidentiel » de Tariq Saleh, il nous montre un policier égyptien qui s'est engagé à être un policier intègre dans la gestion d'une affaire qui le conduit à découvrir comment son propre soutien dans la police, son oncle, joue à plusieurs jeux. visible gratuitement. Ce film est aujourd'hui en VOD. La série danoise Dos au mur, que vous pouvez voir gratuitement cette fois-ci, aujourd'hui en 10 épisodes, réalisée par Søren Dahl, le scénariste J.P. Gjerving-Gram, montre elle aussi la grande complexité de la situation entre le bandit, le banquier, la banquière et un policier hanté par un trauma que l'on ne connaîtra pas, mais qui, par son entêtement, va démontrer tout un système criminel très intriqué dans le tissu social danois. Le personnage de la banquière est peut-être le plus riche. Comment de la frustration de cet horizon policé de la société, elle est poussée à intégrer les mécanismes du blanchiment d'argent à ses risques et périls pour en devenir une spécialiste reconnue. Superbe et haletante série où les trois personnages principaux sont passionnants. À vos clics maintenant et à bientôt.
Radio Campus 88.3.
Est-ce que vous rêvez la nuit?
Je me rappelle, oui, d'un toucher surtout, comme si on me plantait quelque chose dans le ventre, qui m'a fait une sensation vraiment, comme si vraiment on me plantait un truc et ça m'a réveillée fortement.
Il n'y a pas longtemps. Désolée. Hein.
Ouais, c'est bon.
Je sais pas, par exemple, hier j'ai rêvé que j'étais au supermarché et qu'il y avait une amie à moi qui se faisait agresser, et après j'allais la sauver. Enfin, c'est un peu des trucs comme ça, ou des histoires un peu bizarres.
Je suis un peu plus de temps.